Frédéric Martin, alors on peut dire que ça n'est plus un projet. Nous en avions parlé il y a quelques mois, c'était encore... Enfin, le projet était bien avancé. Là, voilà, il est là, il existe. Le bébé est là, sous vos yeux. Avant d'y revenir, d'ailleurs, ben voilà, tiens, je n'y avais pas pensé, mais ma première question va être celle-là. Dans quel état vous êtes, là, face à ce livre absolument exceptionnel ?
Ah, un état de fatigue profond, quand même, mais comme une parturiente, c'est-à-dire comme une femme qui vient d'accoucher, parce que c'est un projet que j'ai porté pendant très longtemps, ça fait plusieurs années que je travaille dessus, et tout s'est bien passé. Le bébé est énorme, il fait quand même plus de 4,5 kg, il n'y a pas eu de césarienne, tout va bien.
Et qu'est-ce qui domine ? C'est la fierté, l'émotion, la fatigue peut-être ?
Je ne sais pas si ça va paraître prétentieux, mais je dirais le sentiment du devoir accompli. C'était une œuvre tellement importante qui n'avait jamais été publiée au monde dans son intégralité, qui avait une responsabilité énorme. On n'avait pas le droit de se planter, que ce soit dans la fabrication, dans la qualité des reproductions des images, dans l'accueil qui allait être fait à ce qui reste un ovni. Cette œuvre ressemble à rien dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Et j'ai le sentiment que le pari est gagné.
Alors, il faut peut-être resituer justement l'importance de ce livre, en quoi vous l'avez déjà brièvement mentionné, mais en quoi c'est une grande première.
Il faut rappeler les conditions très particulières de la création de l'œuvre. Hein. On a affaire à une jeune artiste allemande qui a fui le régime nazi et qui est arrivée dans le sud de la France. Donc beaucoup de Français l'ont découvert grâce au roman de David Funkinos, et qui va être confronté à une double tragédie. Donc la tragédie, on va dire, de l'histoire avec un grand H, mais aussi une tragédie familiale, puisqu'elle découvre en arrivant dans le sud de la France qu'en fait elle est issue d'une lignée maternelle où depuis 4 générations, absolument tout le monde se suicide. Et elle est la dernière survivante. Et face à cette double menace qui promet sa mort, elle va décider de raconter l'histoire de sa famille, de manière vraiment romancée, c'est pas un journal intime, elle joue avec son histoire, elle rebaptise ses personnages, et elle va partir depuis sa naissance jusqu'au moment où elle commence l'œuvre, c'est-à-dire 1940. Voilà. Et elle va le faire de manière colossale. Donc il y a près de 800 peintures, il y a des centaines de calques sur lesquels elle écrivait le récit de son histoire et qu'elle juxtaposait aux peintures. Il y a des annotations musicales, puisqu'elle a créé cette œuvre comme une chorégraphie, une opérette.
Une opérette, en 3 actes.
Et donc, le caractère inouï de l'œuvre, il est aussi dans la forme. C'est-à-dire que ce mélange de textes, d'images et de musique est complètement novateur pour l'époque. Tant et si bien, donc, elle va mourir en 1943, assassinée à Auschwitz. Sa famille va récupérer l'œuvre après-guerre, en 1947, va le conserver dans le giron familial pendant plus d'une quinzaine d'années. Et va finalement le léguer à un musée d'histoire du judaïsme à Amsterdam, où son père s'était réfugié après-guerre. Et elle va rester avec une certaine forme d'incrédulité dans ce musée. Donc il va y avoir des expositions, mais on ne sait même pas comment définir cette œuvre. Les premiers catalogues d'expositions parlent d'un journal dessiné, par exemple, d'un journal en images. Et c'est qu'aujourd'hui, où le terme de roman graphique est devenu... relativement courant, qu'on comprend le caractère novateur. Moi, j'ai tendance à dire que c'est quasiment une sorte de chapelle Sixtine du XXe siècle, quand on voit à la fois l'ampleur et l'effort mental que ça a été de créer une telle œuvre dans une telle solitude sur près de 16 mois.
Et où, sans le savoir, elle invente, on peut dire, elle crée le roman graphique.
Absolument, je pense que...
Elle invente une nouvelle forme.
Oui, pour beaucoup de peintres, c'est une très très grande. Je sais que par exemple Roland Topor était très admirateur de son œuvre, mais pour tous les auteurs de bande dessinée, c'est un peu leur grand-mère. Elle a inventé une forme.
Et alors, surtout, là, on a vraiment l'intégralité de l'œuvre, comme on ne l'a jamais vue, y compris dans les musées, où on n'a jamais... Il y avait toujours une partie de ses dessins. On n'a pas vu, par exemple, justement, ses calques, ses textes qui accompagnent les dessins. Pour la première fois, tout est là, réuni en... combien il y a
820 pages.
820 pages.
Mmh, absolument. Déjà, il faut essayer de mesurer 820 peintures à exposer. Très peu de musées ont la place nécessaire pour le faire. Donc, effectivement, la plupart du temps, les expositions étaient partielles et surtout focalisées sur l'aspect pictural et ne montraient, par exemple, jamais les calques qui sont des œuvres de calligraphie. Quand on voit certains des calques qui sont reproduits dans le livre, il y a de la couleur, il y a des variations de... Tout est peint à la main. Donc ce n'est pas du tout du style hobby, hein, c'est vraiment une création graphique. Et par ailleurs, et j'y tiens beaucoup, ce livre reproduit aussi pour la première fois, c'est un inédit absolu, un document absolument bouleversant qui est une lettre finale qu'elle adresse à l'homme qui a été son Pygmalion et qui est un des personnages principaux du roman, son amant.
Alors, on y reviendra. Mais alors, originellement, cette lettre est intégrée à Vie ou Théâtre ou c'est... Non, c'est un document qu'on a retrouvé.
C'est une histoire vraiment bouleversante aussi. Donc, la mère de Charlotte Salomon s'était suicidée. Elle le découvre en 40, alors que sa mère avait disparu quand elle avait que 8 ans. Elle croyait qu'elle était morte de la grippe. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'elle s'était défenestrée. Mais son père s'était remarié à une chanteuse d'opéra. Et c'est finalement cette femme, Paola Salomon, qui va s'occuper de l'œuvre après-guerre, qui va la préserver, la léguer au musée d'histoire du judaïsme à Amsterdam. Mais lorsqu'elle donne l'œuvre au musée, elle va en garder une part. Voilà. Qui est cette lettre, donc, qui est aussi calligraphiée, qui commence par dire qu'elle a été rédigée 6 mois après l'achèvement du roman lui-même, mais qui est vraiment intégrée pour moi dans l'œuvre, dans la forme et dans le contenu, puisqu'elle explique le pourquoi de cette œuvre, comment elle l'a aussi conçue, et qui révèle aussi quelque chose de terrible, qui est qu'elle a empoisonné son grand-père pendant la guerre.
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut le dire ça? Je me suis posé, là c'est entre nous, je me suis posé la question. Enfin, ça va être dit sans doute dans la plupart.
C'est shakespearien. Ce personnage est bouleversant parce qu'il est à la fois d'une fragilité et d'une violence inouïe.
Oui, puis alors ça modifie la perception qu'on peut avoir de Charlotte, en particulier par le biais du roman de David Fuenkinos, qui apparaît comme une victime. Là, on voit que d'abord elle a une idée très précise de ce qu'elle veut faire, de son talent, de sa démarche. Elle a une ambition artistique qu'elle exprime dans cette lettre. Et donc ce geste fou, quoi, voilà, de tuer ce grand-père qui ne l'a jamais beaucoup aimé.
Alors le geste est fou, mais pas beaucoup plus que le reste quand on y pense. Parce qu'il ne faut pas oublier, elle a entre 24 et 26 ans quand elle fait cette œuvre-là. Alors qu'à regarder les peintures, on pense à un peintre dans sa maturité, dans sa quarantaine, cinquantaine. Non, c'est quasiment encore une adolescente qui a connu qu'un seul homme dans sa vie, donc cet amant qui était le professeur de chant de sa belle-mère. Et quand on voit déjà l'ironie avec laquelle elle traite cette histoire, elle a quand même les nazis aux fesses, elle a ce destin familial qui lui promet un suicide, et elle décide de tourner tout en comédie, en théâtre. Un Singerspiel, le terme allemand, est un peu difficile à traduire. En fait, on pourrait presque dire que c'est un opéra bouffe. Donc il y a un côté farce dans le roman. Par exemple, elle rebaptise tous ses personnages. Ses grands-parents deviennent les Grincheux. Sa famille devient la famille Pichet. Son amant, qui s'appelait Mendelssohn, est rebaptisé Daberlon, qui veut dire salaire de misère. Voilà, il y a une ironie très très forte. Et la relation avec son grand-père, qui était effectivement extrêmement violente, aboutit à ce meurtre, disons le terme, mais dans une cohérence parfaite avec le reste de l'œuvre. Elle était rentrée dans une entreprise de création tellement radicale qu'il n'y avait plus de repères.
Alors, revenons à l'objet lui-même. Quelles sont les différences avec la réalité de ce qu'elle a peint et dessiné, ce qu'on retrouve dans le livre, notamment, je fais allusion au format. C'est un facsimilé, on retrouve le même format ou vous avez dû réduire, j'imagine?
Quasiment. Donc, pour donner aux auditeurs une idée du format, on est sur 28 cm par 28 cm. Donc, c'est un livre carré qui est assez lourd. Pour le faire exactement au format, il aurait fallu monter à 35 cm de côté. Et là, ça devenait un livre. Ça aurait provoqué des asphyxies pour les gens qui voulaient lire dans le lit.
Donc, mais on a essayé. En même temps, on est très proche quand
on
même.
On est très proche, voilà. On est à 92% à peu près de la taille des images, la taille réelle des images. Et surtout, on est dans une intégrité de la forme, c'est-à-dire que chaque planche est reproduite sur une seule page et l'œuvre se déroule vraiment comme un roman. Le texte est aéré. On a vraiment voulu donner à l'œuvre toute sa respiration.
Comment vous est venue cette volonté, cette ambition d'éditer l'intégralité de Vie ou Théâtre? Parce que comme ça, au départ, en effet, le projet peut paraître là aussi un peu fou.
Je dirais qu'il y a deux formes d'éditeurs. Il y a les éditeurs qui font des études de marché et qui essaient de proposer à un public des livres qu'ils croient attendre. Et puis, il y a les éditeurs, et je me range plutôt dans cette catégorie, qui veulent se faire surprendre par une œuvre et ensuite transmettre cette surprise. Voilà. Et Charlotte Salomon, ça m'est vraiment arrivé de cette manière. C'était un écrivain, là encore une fois, c'est un écrivain qui m'a fait découvrir Charlotte Salomon. Donc ce n'était pas David Funkinos, mais Jonathan Wable, que j'avais publié en 2012, et qui un jour connaissait l'œuvre pour l'avoir vue dans une exposition en Israël, et qui m'a dit que c'était très important pour lui. Et m'a conseillé d'y jeter un coup d'œil, et au bout de quelques minutes, je savais qu'il fallait la publier, c'était évident.
Il y a une autre chose qui paraît aussi assez folle, c'est pourquoi vous, petite maison d'édition française, le Tripode, pourquoi et comment une maison comme la vôtre a été capable de venir à bout d'un tel projet, et comment vous a-t-on fait confiance, comment avez-vous convaincu, persuadé, notamment les responsables du musée d'art juif, d'histoire juive d'Amsterdam, qui aujourd'hui sont les détenteurs, les conservateurs de cette œuvre. Quel est votre secret, votre botte magique ?
Alors, les premières personnes que j'ai dû convaincre, c'est d'abord les actionnaires de la maison d'édition, parce que les risques financiers étaient tels que je ne pouvais pas prendre la décision seul, même s'ils me font une confiance totale. Et ils ont eu cette très belle phrase de dire « il vaut mieux mourir en publiant cette œuvre que vivre avec le regret de ne pas l'avoir fait ». Et je les remercie pour ça.
Vous avez de beaux actionnaires.
Tout à fait. C'est des amis, hein. voilà. Les gens du musée, en fait, la chance qu'on a eue, c'est que la maison d'édition est vraiment, et c'est peut-être une question de génération aussi, dans une culture de l'édition où les frontières sont abolies. Il n'y a pas la grande littérature et les arts graphiques d'un côté. Aujourd'hui, et ça m'arrive très souvent dans ce que je publie, j'ai des auteurs qui dessinent, qui écrivent. Et la modernité de Charlotte Salomon, je l'ai perçue peut-être parce que je suis de cette génération-là, de l'image. Et ce qui m'apparaissait comme une évidence ne l'était peut-être pas il y a encore une vingtaine d'années. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gens du musée, que cette œuvre devait être vraiment publiée comme un roman graphique et non plus comme un document historique d'une femme qui a été malheureusement déportée à Auschwitz, ou même comme une œuvre picturale. C'était quelque chose de plus complexe, de plus total, et que c'était le bon moment pour le faire. Et grâce leur soit rendu, ils m'ont fait confiance.
Alors, j'imagine que derrière ça, il y a des questions d'argent tout de même. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut parler chiffres un peu ?
Volontiers. Non, mais en gros, pour faire un livre pareil, on est sur des budgets de 130 000, 150 000 euros. Voilà, donc c'est quand même très important à l'échelle de l'édition en général.
De l'édition, bien sûr.
A fortiori pour une maison d'édition indépendante. Et là aussi, il faut remercier les gens du musée qui l'ont compris et donc qui m'ont permis de le publier dans des conditions financières possible. Et puis par ailleurs, l'œuvre a été soutenue par plusieurs institutions pour des raisons différentes à chaque fois. Ça, c'est amusant aussi. Il y a le Centre national du livre qui l'a aidé via sa commission bande dessinée du livre, car ils estiment que ça fait partie du patrimoine de la bande dessinée. Il y a eu le Fonds de la mémoire pour la Shoah qui a aussi très fortement soutenu la publication du livre pour des raisons évidentes. Et il y a la région Île-de-France, qui, notamment pour l'aspect pédagogique, parce que ce roman graphique est aussi un roman d'apprentissage. On découvre l'histoire d'une jeune femme qui est en train de construire son identité dans un moment tragique. Mais c'est quand même avant tout une histoire d'amour, ce livre, qui, par rapport au lycée de la région, a voulu soutenir ce livre pour que ce livre puisse rentrer dans les lycées, notamment.
Qu'est-ce que je reviens sur l'historique ? La première fois que vous avez pris contact avec le musée d'Amsterdam, quelle a été la réaction ?
Bah, ils ne comprenaient pas. Si je devais caricaturer, ils se demandaient que faisait ce gamin Goy en France pour vouloir publier un livre qui n'était lié à aucune exposition. Ils tombaient un peu des nues. Donc ça a été un travail presque pédagogique. Mais encore une fois, ils ont joué parfaitement le jeu.
Alors après, il faut un savoir-faire, parce que là, évidemment, l'objet est là, il est superbe, c'est magnifiquement réussi, fabriqué, conçu et fabriqué. Où va-t-on chercher ce savoir-faire ?
Allez, je vais vous donner un secret, il y a deux femmes derrière. Il y a Margaret et Margarita. Margaret est la responsable typo de l'école Estienne, donc qui est une grande école de graphisme, et qui a travaillé sur tous les équilibres de la maquette, la mise en forme. Et Margarita est ce qu'on appelle une fabricante dans le monde de l'édition. C'est quelqu'un qui connaît très bien les papiers, la photogravure, c'est-à-dire la qualité des reproductions, le respect des couleurs. Et elles ont toutes les deux fait un travail formidable. Et en souriant, l'une d'elles, quand je l'ai remerciée une fois le livre arrivé, m'a dit « Mais tu sais, tu as fait un bon choix, parce qu'en italien, Margarita, ça veut dire perle. » Et je pense vraiment avoir travaillé avec deux perles de l'édition. C'est deux femmes remarquables. Le livre est dans un coffret, donc on a mis toutes les indications habituelles que l'on porte sur un livre d'habitude, c'est-à-dire le prix, le code-barre, un texte de présentation. Mais ça nous a permis, du coup, de dépouiller au maximum la présentation du livre lui-même. Et on n'a mis qu'une phrase sur la quatrième de couverture, et je la trouve tellement belle que je voudrais la dire.
Eh bien, volontiers.
Donc, c'est une phrase qui est extraite, justement, de cette lettre finale de Charlotte Salomon, et elle dit simplement ceci. « J'appris à suivre tous les chemins, et j'en devins un moi-même. » Je trouve cette phrase bouleversante. Et c'est totalement Charlotte Salomon.